je suis Céline et vous écoutez le podcast Pitches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Pitches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation? La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien. Les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors, arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible? Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement, clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur. Dernière chose, si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi sur ton appli de podcast préféré. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitches Show. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière, ancienne influenceuse Instagram et blogueuse modèle lifestyle à succès. Elle a décidé l'an passé de dire à sa communauté qu'elle arrêtait tout. Elle a arrêté son blog et depuis, elle s'est reconvertie. Elle a trouvé sa voie dans l'art journal thérapie. Elle va nous raconter son parcours, comment elle a de nouveau regagné des milliers d'abonnés sur Instagram et surtout pourquoi ce changement complet de cap. J'ai ma petite idée, il me semble que ça a un rapport avec une toute petite personne qui est venue chambouler sa vie. Mais elle va nous raconter tout ça, elle va nous raconter son parcours, où elle est passée de freelance à plusieurs reprises, à salariée, à blogueuse, à influenceuse. Bref, aujourd'hui je reçois Mélodie Miroir qui nous raconte tout son parcours. Salut Mélodie, j'espère que tu es contente d'être sur Pitches. Je suis super contente en tout cas de t'avoir parce qu'on se connaît maintenant depuis un tout petit moment et je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Donc, bienvenue sur le podcast. Dans cet épisode, on va parler essentiellement de toi et de ta carrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc par faire une petite présentation de toi et tu me diras si c'est tout juste ou si je me suis trompée et si tu as des choses à ajouter. Tu n'hésites pas. C'est bon pour toi?
Ça marche, super. Bonjour et voilà, merci de m'accueillir sur le podcast en tout cas.
Alors Mélodie, tu es une maman créative. T'aimes découvrir et explorer ta créativité sous toutes ses formes, d'après ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure du temps. Tu es une ancienne freelance. Tu as été déjà freelance, je crois, à deux reprises et tu es actuellement salariée en tant que social media manager, je pense que c'est ça.
C'est tout à fait ça.
Voilà. Et aussi, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois, tu n'exclus pas de revenir à une activité indépendante très prochainement avec ta passion actuelle pour l'art journal thérapie.
Exactement.
Voilà. En réalité, je vais quand même dire pour les auditrices, je pense qu'elles te connaissent plus sous ton ancien nom. Tu étais très connue sous le nom d'Odile Sacoche. Donc, pour celles qui suivent et qui étaient habituées à ton blog Lifestyle, voilà, Mélodie Miroir et Odile Sacoche. Mais tu nous as révélé ça il y a presque un an déjà. Je crois que c'était en août l'année dernière où tu as décidé de révéler ta véritable identité. Et en même temps, t'es annoncé que Odile Sacoche allait tirer sa révérence. Et donc, Odile Sacoche n'est plus aujourd'hui. Donc, depuis que tu as terminé avec ce blog Lifestyle, tu t'es lancé dans une formation en art journal thérapie et tu as commencé donc, comme on en a un petit peu parlé déjà,
avant d'enregistrer, tu as commencé à lancer quelques ateliers en présentiel vers chez toi. Et donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. Est-ce que c'est bien
ça? C'est ça, tu as très bien résumé tout ça. Donc oui, je me suis formée plutôt en fait à l'art-thérapie et j'ai découvert il y a environ un an l'art journal qui me fait énormément de bien. Et donc c'est une pratique créative qui me fait tellement de bien que j'ai envie de pouvoir la partager un peu à tout le monde et surtout aux femmes en fait. C'est plutôt réservé aux femmes. et donc exactement, oui, j'ai commencé des ateliers juste avant le confinement. J'en ai animé un chez moi. Et donc, j'ai juste hâte maintenant que le confinement se termine et que cette vilaine histoire de Covid soit juste derrière nous pour pouvoir continuer sur ma lancée, en fait.
Parfait. Alors, avant de parler d'art journal thérapie, on va quand même parler un petit peu de ton passé et de ton passé de freelance en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu étais freelance dans quoi? Parce que j'ai cru comprendre que ça a été à deux reprises. Et donc, qu'est-ce que tu faisais?
Oui, alors en fait… Déjà, j'ai changé de carrière en cours de route parce que j'ai été styliste pendant 10 ans. Donc, j'ai eu une formation de styliste à la base. Et pendant mon travail de styliste aussi, j'ai entamé aussi une formation en infographie pour me perfectionner dans le graphisme digital et vectoriel. Donc, pendant que j'étais styliste, j'avais d'abord eu une première activité de freelance pour monter une marque de papeterie qui s'appelait à l'époque Didi & Kate. Didi de Mélodie Didi et Kate, c'était le nom de mon chat, donc c'était une petite fille et un petit chat. Et donc j'avais commencé à faire des cartes postales, j'avais envie de faire tout un branding autour de ce projet, mais c'était vraiment beaucoup trop tôt pour moi. J'étais vraiment pas prête avec cette activité, donc j'ai commencé ça, je devais avoir 22-23 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'était un peu un premier bébé avorté. Mais comme j'avais déjà lancé les démarches administratives pour être freelance, j'ai commencé à accepter quelques contrats comme infographiste. Et puis, pareil, je pense que c'était beaucoup trop tôt pour moi. Donc après, je crois, un an, j'ai arrêté parce que je m'en sortais pas administrativement. J'avais mon boulot à temps plein. J'avais plein de choses sur le côté, donc j'ai arrêté. Et puis, il y a 4 ans, j'ai changé complètement de carrière pour devenir donc social media manager. Donc, je crée du contenu sur Internet pour mon employeur, donc des blog posts, des vidéos. Je gère le compte Instagram, on gère aussi la communauté Facebook, Twitter, donc vraiment réseaux sociaux à fond. Et à côté de ça, j'avais l'envie avec mon blog de me lancer comme blogueuse pro, donc avec mon blog lifestyle Odile Sacoche. Et donc, j'ai repris un statut d'indépendante pour pouvoir accepter plus de contrats, plus de partenariats avec des marques parce qu'on m'en proposait de plus en plus. Et à côté de ça, j'ai revoulu lancer une marque de sac de nouveau avec du branding et de dessin et tout ça. Et ça a aussi de nouveau été une expérience super avortée. Parce que, pareil, la réalité du temps m'a rattrapée. Et pareil, après un an environ, j'ai arrêté. Donc, j'ai essayé de réembrayer sur des contrats d'infographiste à côté. Mais le fait d'avoir des clients très exigeants, d'avoir mon travail à temps plein, j'ai de nouveau arrêté après un an. Et aussi, il faut savoir qu'en Belgique, les démarches administratives sont très compliquées quand on veut être indépendant complémentaire. Donc, en plus de son travail, il faut engager un comptable, il faut rendre des cotisations tous les trimestres, il faut rendre des déclarations de TVA, des machins. Et donc, je m'en sortais pas. Et donc, pareil, donc après un an ou deux, j'ai arrêté. Et puis, j'ai encore accepté quand même quelques contrats via une autre forme de statut d'indépendant, toujours dans l'infographie. Mais voilà, c'est à chaque fois des petites expériences que ils sont vite avortés. Mais donc, ça traîne dans un coin de ma tête depuis pas mal de temps quand même. Mm-hmm.
Mais malgré tout, du coup, tu reviens toujours au dessin, à tout ce qui est…
Toujours. Le dessin, ça a toujours été, depuis toute petite, depuis que je suis en primaire, j'ai toujours dessiné. Et quand j'ai voulu faire le stylisme, ma mère n'était pas trop d'accord à l'époque. Parce qu'elle pensait que j'allais finir comme une artiste tatouée, cheveux colorés, piercing, finir sous un pont, enfin vraiment le cliché de l'artiste. Donc, elle m'a forcée à faire des grosses études nous on appelle ça le secondaire. Donc, en France, c'est quoi? C'est le collège, juste avant le bac.
Le lycée.
Donc, le lycée. Donc, j'ai eu des options fortes en mathématiques et tout ça. Mais je me suis inscrite aux Beaux-Arts en complémentaire, en plus quand j'avais 17 ans. Mais donc oui, l'art toujours est revenu à moi et j'ai eu une grosse période de creux justement quand je suis passée de métier de styliste à mon métier de social manager, où là vraiment pendant 4 ans, j'ai rien créé du tout, presque rien, ou pour des autres. Et j'ai eu comme un dégoût en fait de la création, du dessin et tout ça. Et c'est vraiment là depuis 1 an que j'y suis revenue. Petit à petit, ça a vraiment été un chemin introspectif. Et c'est ça que je me rends compte aussi, c'est que l'art apporte vraiment beaucoup dans la vie. Et j'ai découvert en fait une forme d'art que je connaissais pas. C'est vraiment l'art bien-être, pour se découvrir, pour se sentir mieux, pour gérer le stress, lâcher la pression.
Ok. Alors, on va en parler de l'art journal thérapie un petit peu plus tard, mais je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la période Odile Sacoche, parce que Odile Sacoche, c'était un blog lifestyle. Donc, si j'ai bien compris, tu as quand même réussi à le monétiser, au moins en partie.
T'avais, oui, tout à fait.
Des contrats avec des marques, etc. Tu testais beaucoup de produits, si je me souviens bien.
Exactement, oui.
Mais par contre, il s'est passé quelque chose pendant cette période Odile Sacoche dans ta vie qui est relativement important, je crois. Il me semble que tu es tombée enceinte pendant cette période-là.
Exactement. Je n'ai même pas encore parlé de ma fille, c'est scandaleux.
Et oui, c'est scandaleux.
Amour de ma vie.
Et oui.
Ouais, c'est pas la priorité. Oui, exactement. Je suis tombée enceinte. Alors, moi et les dates maintenant. En fait, c'est très marrant, mais depuis que je suis maman, j'arrive plus à me repérer dans le temps et des années et tout ça. Donc, je suis tombée enceinte il y a 2 ans. Ma fille va avoir 2 ans en septembre.
Ouais,
donc 2-3 ans, en fait, si on comptait 9 mois de grossesse quand même. Mm-hmm. Donc oui, tout à fait, pendant la période d'Odile Sacoche. Et en fait, le blog d'Odile Sacoche, il a énormément évolué par rapport au tout début, parce que ça a d'abord été un blog... pour parler de mes humeurs, c'est passé par du nail art, c'est passé par du beauté, et puis je suis tombée enceinte, je me suis dit, je vais faire, parce que j'avais vraiment énormément de demandes de partenariat, donc j'ai voulu faire, comment est-ce qu'on dit, maman influenceuse, en disant, je vais partir dans ce truc-là, et puis, en fait, le fait d'avoir été maman, d'avoir été enceinte, ça m'a vraiment remis toutes les priorités. J'ai comme eu un espèce de choc des priorités de la vie et je me suis dit, mais non, c'est pas du tout ce que je veux pour elle, qu'elle grandisse dans une société de consommation et que je lui montre que sa maman, en fait, c'est une femme sandwich qui teste des produits et qui reçoit des choses. Et donc, en fait, j'ai eu aussi un espèce de dégoût de tout ça. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête. J'arrête tout ça parce que je me suis rendu compte que j'étais maman, que j'allais être un exemple pour ma fille et que qu'est-ce que je voulais lui montrer pour sa vie aussi professionnelle après, même si elle était encore que tout bébé. Mais ça me sert beaucoup de ligne droite, je vais dire, de fil d'Ariane dans ma carrière, parce que je me dis, quel est l'exemple que je veux lui montrer, qu'est-ce que j'aimerais pour elle. Et donc ça me remet à chaque fois mes priorités un peu, voilà, ça me fait beaucoup réagir.
Oui, mais c'est vrai que les enfants, c'est pas moi qui va convaincre, mais je pense que vraiment les enfants nous font voir la vie sous un autre angle, et encore plus nos activités professionnelles qui, voilà, effectivement, comme tu dis, c'est un exemple qu'on veut donner ou qu'on veut pas donner sur ce qu'on fait, la manière dont on se bat pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, c'était la question que je voulais te poser, justement, quel était l'impact, et tu viens de nous répondre, sur de ta maternité et de l'arrivée de ta fille dans ta vie sur ton blog, sur, à l'époque, hein, sur comment tu avais pris les choses, et également sur, finalement, la consistance et la teneur de tes publications sur ton blog, parce que tu nous as dit, en substance, qu'il y avait une sorte de réorientation. Mais tu n'as pas arrêté le blog tout de suite quand elle est née. Tu l'as continué un petit peu parce que ça prend quand même un peu de temps pour se rendre compte de tout ça. Donc, comment tu as géré ça en termes d'organisation vraiment purement terre-à-terre, pratique, un bébé, même une grossesse, je ne sais pas si tu as une grossesse facile ou difficile, mais grossesse, fatigue, machin, et l'arrivée de bébé où on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Comment tu as réussi à gérer ce blog? Continuais-tu à publier et voilà, et quel type de publication, enfin, est-ce que ça, voilà, l'incidence que ça a eu sur tes publications et ton organisation?
Alors, en fait, ça a été très progressif, l'arrêt du blog. Quand elle est arrivée, déjà les 4 premiers mois, moi j'étais dans une bulle intemporelle, je sais pas, j'étais coupée des infos, je sais pas ce qui se passait dans le monde, c'était vraiment juste elle et moi, quoi. C'était en même temps une bulle merveilleuse, pleine d'amour et en même temps une bulle très fatigante. Les premiers mois sont, voilà, personne ne va me contredire, je pense, là-dessus. C'est que, en plus, on est tout seul à la maison avec elle parce que papa travaille. Donc voilà. Donc, le blog, dans un premier temps, les premiers mois, c'était juste pas de blog du tout, quoi. Parce que pas possible. Enfin, j'y arrivais pas. Et moi, j'ai un petit souci de perfectionnisme. Donc, j'aime bien que les choses soient bien faites, surtout au niveau du blog. Et en plus de ça, je suis un peu, comme on dit, le cordonnier mal chaussé. Ou plutôt bien chaussée, c'est-à-dire que quand on écrit un article de blog, moi, je veux qu'il y ait des bonnes photos, je veux qu'il y ait une bonne orthographe, je veux qu'il y ait tous les paramètres SEO, les mots-clés, les machins. Et donc, quand j'écrivais un article de blog avant qu'elle soit là, parfois, j'en avais pour 4 heures d'écrire un article de blog. Encore plus quand c'était des revues de produits et tout ça, parce qu'il fallait il fallait faire toutes les photos, retoucher les photos. Parfois, je faisais des vidéos, j'en avais pour tout un week-end entier. Donc, quand elle est arrivée, c'était juste pas possible, quoi. J'avais zéro temps pour le blog. Par contre, j'avais énormément de temps pour Instagram parce que, comme je l'allaitais aussi, j'étais souvent dans le fauteuil. Et puis, quand elle est née, elle avait du mal à... Enfin, elle dormait toujours sur moi. Donc, le téléphone, c'était mon meilleur ami parce qu'elle était tout le temps sur moi. Donc, Instagram, je m'y suis plongée à 100%. C'était ce qu'il y avait de plus facile. Et je sais qu'il y a des mamans qui écrivent leurs articles de blog sur le téléphone, mais ça, par contre, pour moi, c'est pas possible parce que je sais toujours pas écrire correctement sur un téléphone. Je fais toujours plein de fautes, c'est catastrophique. Donc, le blog, dans un premier temps, c'était juste non, pas possible. Quand j'ai recommencé à travailler, là, j'ai commencé à entrevoir une nouvelle routine du fait du travail. Donc, j'avais des horaires déjà plus organisé, je vais dire, parce qu'il y avait un réveil, parce qu'il fallait que je me rende au travail. Et donc là, tout doucement, il y avait quelques articles de blog qui pouvaient ressortir parce que j'avais, par exemple, les trajets de train où je pouvais écrire, où j'étais toute seule. Et puis, il y avait les temps de sieste qui commençaient aussi un peu à s'organiser avec la petite. Donc, je pouvais prévoir, OK, elle va dormir pendant plus ou moins. Alors, au début, c'était une demi-heure, mais je comptais sur une demi-heure. Donc, je pouvais prévoir petit à petit. Mais ça m'a rendue en fait juste dingue parce que je voyais le travail que c'était et je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas envie de faire ça. Et comme en plus la journée, je faisais déjà ça au travail, des articles de blog, des vidéos, de l'Instagram, du Twitter, du Facebook. En fait, j'ai eu un trop-plein. Et j'avais vraiment encore en plus cet aspect, moi qui me tenais vraiment fort à cœur, cet aspect consommation, maman influenceuse qui me dérangeait de plus en plus. Je voyais toutes mes compatriotes blogueuses faire des tests de produits, de vêtements, de machins. Et j'étais là, non, je veux pas ça. J'avais vraiment une conscience minimale, entre guillemets, qui s'installait. Donc, progressivement, le blog s'est arrêté. C'est l'année passée, oui, en été, j'ai eu comme un... Le fait d'avoir 35 ans, j'en sais rien si c'est ça, mais je crois que mes 35 ans m'ont fait un espèce de bling. Je me suis dit, stop, non. J'arrête. Je veux plus. Ça me correspond plus. Odile Sacoche ne me correspond plus, en fait. C'est comme si c'était une autre personne. C'était une version jeune de moi. Mm-hmm. Et que maintenant, j'avais envie d'autre chose, en fait. Donc, voilà.
Je comprends. Le coup des 35 ans, on est deux. Hein. Moi, ça m'a mis un gros coup.
Parce qu'en plus, on voit beaucoup d'influenceuses qui ont 25 ans et on se dit, mince, je fais la même chose, sauf que j'ai 10 ans de plus et qu'en plus, j'ai des enfants. Ouais. Ce côté un peu, je suis juste une vieille mégère, quoi.
Oui, on sent un petit peu en décalage. Mais cela dit, tu marchais quand même très, très fort. Le terme d'influenceuse est vraiment très bien utilisé en ce qui concerne ton ancien... Enfin, ce que tu faisais avec Odile Sacoche, parce que tu avais vraiment, je ne sais pas combien de milliers de followers sur Insta, Twitter, etc. Tu étais dans plusieurs magazines. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'influenceuse. Alors, il en faut pour tous les goûts, puis pour tous les âges, hein, donc... Pourquoi pas, même à 35. Mais par contre, je comprends effectivement par rapport à l'envie dont on a envie d'élever ses enfants, c'est pas forcément toujours très adapté. Mais après, chacun sa façon de voir la vie. Et du coup, ça t'a amené, comme tu dis, à couper, à mettre le clap de fin sur Odile Sacoche. Et aujourd'hui, donc, on va revenir à ce que tu fais aujourd'hui. Mine de rien, tu es en train de reconstruire ta communauté sur Instagram. Parce que tu n'es pas à quelques petites centaines de followers. Hein?
Non, hein? J'ai effectivement pas mal de followers sur Instagram. Après, j'ai une grosse base de ces followers qui date encore de Deal Sacoche. Et il y a des gens qui me suivent depuis les tout débuts. Donc, en Deal Sacoche, j'ai commencé en 2011. Et c'est très marrant parce que j'ai encore aujourd'hui des messages en privé qui me disent « Je te suis depuis Deal Sacoche, depuis tes nail art. » Et je trouve ça fou parce qu'on est entre-temps en 2020. Donc, les gens, ils me suivent depuis tout ce temps. Ils voient mon évolution et la fidélité des gens est assez folle. Mais donc oui, je suis en train de reconstruire ça. Petit à petit, j'ai encore du mal à concevoir de réouvrir un blog parce que je sais que ça prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps quand on veut faire les choses bien. Mais ce qui est marrant avec Instagram, c'est que j'ai eu un gros déclin au niveau d'Instagram pendant un an ou deux où vraiment je voyais chaque jour les followers qui diminuaient. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans ma décision d'arrêter Deal Sacoche. Et là, depuis 6 mois, je repars dans l'autre sens. Et c'est marrant de voir aussi comme les communautés peuvent changer sur les réseaux sociaux. Et que tout est question de patience aussi quand on veut construire une notoriété sur les réseaux sociaux, quand on veut vivre d'un métier du web. Mais là, du coup, c'est quelque chose de, pour moi, totalement différent que je construis parce que j'espère juste plus apporter des outils aux gens, contrairement à avant où j'apportais des produits. Donc, il y a une démarche qui est quand même un peu différente, quoi.
Alors, si tu nous expliquais un petit peu ce que c'est l'art journal thérapie, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et moi, j'ai montré tout à l'heure à ma fille qui a 11 ans donc ton profil Insta. Et elle adore faire tout ce qui est un petit peu DIY. Et elle me dit, je vais faire comme ça, je vais faire des trucs. Tu pourras me la présenter. je vais te montrer ce qu'elle fait. Et je lui ai demandé exactement... qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle construit ça et tout. Donc, si tu pouvais nous en parler un petit peu.
Alors, l'art journal thérapie. Alors déjà, ça, c'est moi qui ai rajouté la petite extension thérapie derrière parce qu'il y a l'art journal de base. À la base, un art journal, c'est vraiment un journal pour faire de l'art dedans. Donc, il n'y a pas du tout la notion de thérapie dedans. Il y a pas mal de façons différentes de faire un art journal. Il y en a qui font juste des dessins de ce qu'ils voient au quotidien. Moi, je me suis vraiment plus lancée dans la partie collage. J'ai découvert une méthode que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais appris ni aux Beaux-Arts, ni à l'école, ni rien. Donc à la base, l'art journal, c'est vraiment faire de l'art dans un format journal. Généralement, les gens qui font de l'art journal, c'est aussi des gens qui sont en manque de place, qui n'ont pas l'occasion d'avoir un studio, qui n'ont pas l'occasion d'avoir un bureau, ce qui est mon cas. Je fais ça sur la table de ma cuisine. Et donc c'est un petit format pratique qu'on peut prendre partout avec soi et on laisse juste exprimer sa créativité. Après, petit à petit, par le chemin que j'ai suivi, j'ai rajouté l'extension thérapie parce que je me suis rendu compte que l'art journal, comme le fait d'avoir un journal intime dans lequel on écrit, pouvait vraiment être une thérapie pour se sentir mieux parce qu'on exprime en fait ses émotions, mais là d'une façon artistique du coup. Il y a une méthode d'ailleurs qui s'appelle le journal créatif, qui est une méthode d'Anne-Marie Jobin, qui est une Canadienne, qui forme les gens, il y a une école, justement plus dans le côté très thérapeutique du journal créatif, avec des exercices pour partir à la rencontre de soi, pour se reconnecter avec son enfant intérieur, pour gérer des colères, pour gérer des périodes de stress, pour gérer le burn-out. Donc moi, j'essaye juste un petit peu de mélanger tout ça avec mon background de styliste et de artistique et le côté développement personnel, art bien-être. Et alors oui, j'ai suivi une formation en art thérapie. Donc l'art thérapie, c'est une thérapie en fait par l'art pour apprendre à parler de ses traumatismes. Donc là, on est vraiment dans la thérapie lourde, genre Alzheimer, ou des gens qui ont des problèmes d'addiction ou qui ont vécu des traumatismes durant l'enfance et des gens qui n'arrivent plus à verbaliser en fait leur traumatisme par une thérapie normale chez un psychologue ou chez un thérapeute et qui du coup ont besoin de l'art pour les aider en fait à s'exprimer par la peinture, par le chant, par la musique, par la danse. Donc voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça et moi c'est vraiment plus la pratique papier qui me parle le plus parce que bon l'art thérapie comme je dis on en parle aussi en musique en danse mais donc c'est une, un moyen de communiquer sur son mal-être ou sur son bien-être aussi, parce qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils vont bien et que voilà, par un médium papier dans un journal, quoi.
Et du coup, c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Comment ça se déroule, ces séances de créativité? C'est où tu te dis, bah, tiens, je fais ça le samedi. Enfin, tu vois, c'est très normé, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est au fur et à mesure de tes...
Ça a beaucoup évolué parce que j'ai commencé quand ma fille ne marchait pas encore et qu'elle crapahutait dans le salon. Comme je devais toujours un petit peu vérifier où est-ce qu'elle allait et que j'étais là sans pouvoir allumer la télé, j'arrivais pas à me concentrer pour réécrire justement un article de blog ou quoi. Donc j'ai commencé à faire ça la journée. Sans forcément me donner un horaire ou quoi. Et puis maintenant ça a évolué parce que maintenant elle marche, elle court, elle s'intéresse à ce que je fais, elle essaye d'attraper mon bâton de colle, de mettre mes peintures dans la bouche. Donc je n'arrive plus à créer quand elle est là, c'est juste pas possible. Donc maintenant je le fais pendant les heures de sieste, l'heure de sieste. Parce qu'elle dort qu'une heure par jour, j'ai pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Ou le soir après manger. Donc j'ai la chance qu'elle va dormir tôt, elle va dormir à 19h. Donc et elle dort très bien la nuit. Je fais partie de ces mamans chanceuses qui a une fille qui a très bien dormi dès le début. Donc le soir je crée le soir. Et aussi il y a un truc que je me suis rendu compte par rapport à tout ce qu'on recommande en termes de créativité ou de développement personnel, on dit toujours qu'il faut avoir une routine quotidienne. Je suis assez d'accord avec ça. Mais souvent, on impose des horaires. Et je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout pour moi. Que c'était plus, comme tu dis, c'est maintenant. Mais si je me dis, voilà, c'est tous les jours, entre 5h et 6h, il faut que je crée. Par exemple, il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin à 5h pouvoir faire ce genre de choses, moi ça marche pas. J'ai besoin de me dire, ce sera peut-être ce soir ou ce sera peut-être demain. Donc maintenant je crée environ 4 fois par semaine, je vais dire, et c'est un peu aléatoire. Il n'y a pas un jour en particulier. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que plus je crée et plus j'ai envie de créer. Et en fait, ça agit comme une drogue, en fait, mais une bonne drogue du coup, parce qu'il y a un sentiment de gratitude qu'il y a derrière. Et voilà, mais donc du coup, oui, de nouveau, c'est progressif et c'est un peu au rythme de ma fille, oui, à son rythme, de son évolution. J'ai déjà bien essayé de la faire dessiner à côté de moi, mais ça ne marche pas. Elle veut attraper tout ce que je fais, donc ça part au drame.
Ouais, mais c'est l'âge en même temps, 2 ans. Oui. Bon, hein. Voilà. Voilà. Mais est-ce que tu pourrais dire que justement, ta créativité, en tout cas ce que tu fais, a une influence sur ton comportement avec ta fille, ou enfin ton comportement au quotidien, hein, l'influence sur ton humeur avec ta fille, avec ton homme, dans ta vie en général, quelle influence ça a pour toi?
Je sais pas trop comment eux le perçoivent, mais par contre, moi, c'est vraiment un outil qui m'aide vraiment à déstresser et aussi à couper d'une journée de travail. Surtout en ce moment avec le confinement. Donc moi, j'ai continué à travailler pendant tout le confinement. Donc je travaille en 4/5e j'ai eu des journées très 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 stressantes avec énormément de travail. Donc moi, je fais pas partie des cas des gens qui ont eu le confinement à s'ennuyer. Donc c'était plutôt tout l'inverse. La créativité et l'art journal m'a vraiment permis de couper après une journée de travail, de me dire, ok, maintenant je me déstresse pendant 20 minutes, je fais n'importe quoi, des gribouillis, je coupe, je colle, je réfléchis pas à ce que je fais. Donc ça, à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est un outil qui ça me tient à cœur de partager par la suite, parce que en tant que maman et en tant que maman qui travaille, je trouve que c'est un bon médium pour vraiment lâcher prise, se déstresser, se défouler. Et on n'en parle pas beaucoup de ce système de défoulatoire. Mmh. Voilà.
Et du coup, je rebondis avec ce que tu viens de dire. Quel conseil tu donnerais aux mamans qui ont envie de se lancer, mamans un peu créatives ou pas d'ailleurs, celles qui se disent, tiens, je serais bien. Quel conseil tu leur donnerais pour commencer? Peut-être, c'est quoi le matériel de base? C'est quoi le meilleur environnement peut-être pour commencer, pour un grand débutant, que, par quoi juste un carnet roule ma poule, ou il faut, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles ont besoin
plutôt. Eh bien, justement, elles ont besoin de rien. Et c'est justement ça aussi que j'ai envie de partager, c'est que, comme tu dis, c'est un carnet et roule ma poule. Un carnet ou une feuille, papier d'imprimante, n'importe quoi. Ouais. Il ne faut pas grand-chose, en fait. Et moi, j'ai commencé avec quasiment rien. Donc, j'ai commencé, les premières pages que j'ai faites, quand je surveillais ma fille, c'était bêtement découpé des couleurs dans les magazines style Glamour et Cosmopolitan, et ce genre de bêtes magazines. Donc, découpé, collé, voilà, sur une feuille, sans vouloir représenter quelque chose, sans chercher le beau, juste chercher à décompresser et apprécier le processus, en fait. Et c'est ça aussi qui est important dans l'art-thérapie et dans l'art-journal-thérapie, c'est que c'est pas vraiment la recherche du beau, c'est vraiment juste le processus qui est important, le fait de faire autre chose. Après, il y a aussi toutes des études scientifiques sur le fait que découper, coller, machin, ça peut travailler certaines parties du cerveau, et donc du coup, ça permet de... Le coloriage, par exemple, est vraiment un très bon outil pour déstresser. Donc, pour commencer, il faut vraiment rien, quoi. Moi, j'ai vraiment commencé, comme je dis, avec les magazines que j'avais sous la main. Même parfois, quand je reçois des prospectus dans ma boîte aux lettres, j'essaie de voir s'il y a des petits trucs à découper dedans pour avoir des fonds de couleur. Et après, je recommande aussi souvent de commencer avec les peintures des enfants, parce que souvent, on a du matériel pour nos enfants, mais qu'on n'a pas pour nous, mais ça fonctionne très bien aussi. La peinture au doigt, ça fait aussi des choses très ludiques. Il faut vraiment pas grand chose. Donc pour moi, un carnet, une paire de ciseaux, un tube de colle, même la tube de colle scolaire, hein, faut même pas acheter ouais. une colle en particulier, quoi. Donc c'est accessible à tous, et même un simple stylo bi, faire des gribouillis sur une feuille, voilà.
Et bien donc du coup, c'est ça qui te motive pour pouvoir après proposer des ateliers. Et peut-être des tutos. Je ne sais pas, il me semble avoir vu une chaîne YouTube où tu fais des tutos, non? Il me semble. Ah, on n'en a pas parlé. Mais...
De nouveau, tout est très progressif. Hein.
Oui,
ben... oui. En fait, j'ai aussi une chaîne YouTube et IGTV où effectivement, j'essaye de mettre en place des tutos. J'aimerais idéalement en proposer une fois par mois. Mais oui, il y a une chaîne qui se prépare, et j'ai oublié ta question. je suis partie dans...
je disais tout simplement qu'en fait, ça allait te mener. Donc, on sent quelque part, comme tu aimes beaucoup ça, que tu as envie effectivement de transmettre ce que tu sais, ce que tu as appris, comment tu peux aider les gens justement à réussir à se libérer, surtout les femmes, effectivement, comme tu l'expliquais. Et donc, effectivement les tutos au travers de ta chaîne YouTube, mais aujourd'hui au travers des ateliers. Donc tu as fait un premier atelier là, comme tu disais, avant le confinement. Comment tu vois la suite de l'aventure? Alors si j'ai bien compris, effectivement en Belgique c'est compliqué de s'installer en termes, est-ce que malgré tout c'est une vraie option que tu as de vouloir proposer ça de manière entre guillemets plus professionnelle, même si c'est en seul business comme ils disent, c'est-à-dire un job, enfin un à côté, un business à côté de ton boulot, ça va te rajouter quand même de la charge de travail. Donc là, on va encore de nouveau sortir de ce côté très ludique, parce qu'on va avoir un côté un peu plus sérieux, et gestion d'entreprise. Est-ce que ça ne t'effraie pas finalement? Ou alors tu veux quitter ton job?
je pense que de nouveau, c'est quelque chose qui va se faire de manière très progressive. Déjà pour la suite, oui, donc j'ai vraiment envie de reprendre les ateliers une fois qu'on pourra... mettre en place d'un point de vue distance sociale et par rapport à la crise sanitaire du moment. Donc, j'aimerais reprendre des ateliers, que ce soit des ateliers en live comme j'avais fait chez moi. Donc, moi, je l'avais fait dans mon garage, vraiment cool. Mais peut-être des ateliers aussi justement via la vidéoconférence. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en ce moment pendant le confinement, des artistes ou des art-thérapeutes qui proposaient de faire ça en vidéoconférence. Je trouve que finalement, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Ce que j'aimerais aussi, c'est de pouvoir donner des cours en ligne, toujours par vidéoconférence ou via un système de cours déjà préfaits qu'on peut acheter, comme on voit déjà.
Comme une formation en ligne, oui.
Exactement, comme une formation en ligne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'aimerais vraiment me tourner petit à petit. Et en termes de business très sérieux, Si, ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur parce que, oui, justement, en Belgique, c'est assez compliqué, je trouve, d'un point de vue purement administratif. Et aussi à savoir que pour le moment, donc, je suis en 4-5e et c'est un crédit temps particulier qu'on a en Belgique qui ne me donne pas le droit de monter mon business. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi que, au niveau de mon employeur, je puisse voir comment arranger mon temps de travail ou comment arranger mon contrat ou ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je me vois plus comme une entrepreneure sécure, je vais dire ça comme ça, donc plutôt mi-temps employée et mi-temps entrepreneur, du fait justement que bah oui, j'ai une fille, j'ai une maison que j'ai achetée et je sais aussi la vie que j'aimerais avoir pour elle. C'est-à-dire que la sécurité financière pour moi c'est quelque chose d'assez important et malheureusement j'entends pas beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui ont des business très florissants, donc ça me fait aussi fort peur à ce niveau-là. Donc j'aimerais pouvoir allier les deux, donc être moitié employé, moitié entrepreneur et pouvoir faire ça à côté et peut-être après petit à petit ça, dans 10 ans ou dans 20 ans pourquoi pas être à temps plein entrepreneur, quoi. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui se développent sur le tard. Et ça me rassure beaucoup, ça me donne beaucoup d'espoir par rapport à justement à tous ces jeunes entrepreneurs qu'on voit beaucoup, qui ont monté des boîtes très jeunes, à 25 ans, on entend plein d'histoires comme ça. Ben, l'autre côté, moi, je vois beaucoup d'artistes qui se sont révélés à 35 ans, 40 ans, même à 50 ans. Et je trouve ça dingue, en fait, parce que je me dis, waouh, ça me parle beaucoup parce que je me dis, il n'y a pas d'âge en fait, et on a tout le temps du monde, quoi. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de monter son business que, bim, demain, ça doit être fait, quoi. On a le temps, on peut le faire progressivement. Donc, voilà.
Mais oui, de toute manière, pour trouver sa voie, quoi qu'il arrive, ça prend du temps et monter un business, finalement, quand on y pense, c'est un détail parce que le principal, c'est de réussir à faire ce qu'on aime. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, toi, tu as exploré tellement de facettes des possibilités de la créativité, parce que tu as quand même vraiment fait beaucoup de choses et tu es vraiment touché à tout. On n'a pas parlé du roman que tu as mis en suspens, n'est-ce pas, hein, le roman. Ça sera peut-être pour une autre histoire, mais effectivement, tu es quand même quelqu'un de très créatif. Et finalement, la partie business, elle va intervenir que parce que tu vas vouloir effectivement transmettre quelque chose que tu sais, apprendre aux autres. Aujourd'hui, c'est effectivement comme ça que ça se traduit. Même s'il y en a quelques rares personnes qui vivent de leur art, purement de leur art, sans transmettre, hein, juste en vendant leurs œuvres. Aujourd'hui, effectivement, si tu dois, toi, évoluer, d'après ce que je comprends, c'est vraiment pour pouvoir partager avec les autres, donc leur apprendre et leur faire découvrir cette activité-là. Et puis, comme tu dis, bah, si ce business il se monte cette année, c'est tant mieux. Mais si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, c'est au moment où ça se présente, c'est au moment où tu le sentiras le plus, où tu auras aussi du temps, parce qu'on est quand même sur ce facteur temps, encore une fois, surtout quand on est maman, quand on a une famille, le facteur temps, il est important pour tout le monde, mais quand on a des enfants, on est encore plus tributaire de celui-ci. Et clairement, entre un job salarié à temps plein, ou en tout cas 4-5e, comme tu l'as, une vie de famille, ça laisse peu de temps pour pouvoir créer un business, pas pour pouvoir créer ce que tu aimes faire, mais pour créer un business. Donc, effectivement, en plus, voilà, les contraintes administratives liées à chaque pays. En France, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui quand tu veux monter une auto-entreprise, mais j'avais déjà entendu parler en Belgique, effectivement, que c'était assez compliqué. J'ai pas mal de copines belges et elles se plaignent vraiment de ce côté très, très rigide de l'administration pour pouvoir monter son business. Donc, il y a effectivement tout un tas de petites choses qu'il faut prendre en compte. On ne se lance pas comme ça, le nez au vent. Et je suis bien d'accord, ce n'est pas parce qu'on a passé un certain âge qu'on ne peut plus rien faire. Je crois au contraire
Exactement.
que notre âge, elle joue en notre faveur. Bon, c'est
Exactement.
sûr, peut-être que ça fait vieux de dire ça, mais tant pis, je le dis quand même. Voilà. En tout cas, je voudrais quand même que tu nous dises, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est quoi comment dire, tes profils, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de site, mais donc tu as ton Insta, tu as ta page Facebook, tu as ton groupe, tu as plein de choses. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélodie ?
Alors, on peut me retrouver surtout sur Instagram. Là, j'y suis vraiment tous les jours. Mm-hmm. Donc, à Mélodie Miroir. On peut me retrouver sur Facebook. J'anime un peu moins ma page Facebook, mais par contre, j'ai un groupe Facebook où toutes les femmes sont les bienvenues. Chaque semaine, je propose un thème pour créer. Et ce n'est pas forcément créer, peindre, dessiner, coller. J'ai par exemple quelqu'un qui fait des poèmes dans le groupe. Donc, c'est vraiment des thèmes que je propose assez larges pour explorer sa créativité. Et j'ai lancé timidement une newsletter il n'y a pas longtemps. Donc, on peut aussi me retrouver sur la newsletter. Donc là, en fait, tous les liens sont sur ma page Instagram, mon profil Instagram. Là, il y a le lien donc, du coup, de la chaîne YouTube, du groupe Facebook, de la newsletter. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais,
de toute manière, je remettrai tous les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent cliquer, te retrouver facilement et s'inscrire à ta newsletter ou rejoindre ton groupe ou te suivre, enfin, ce qu'ils ont envie de faire avec toi. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là. Je trouvais très intéressant cette partie créative parce que moi, je suis peu créative, en tout cas avec mes mains. Ma fille l'est beaucoup plus. Et voilà, je trouve vraiment que c'est une... Encore une fois, c'est des choses, surtout en business, alors effectivement, même si tu n'es pas dans le pur business aujourd'hui, mais dont on parle peu. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de discuter de ça avec toi. Donc vraiment, merci de m'avoir accordé ce temps. Je suis super contente de t'avoir reçue et je te dis donc à très bientôt.
Un tout grand merci à toi et à très vite.
Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le podcast, je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préféré. Ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.